Radio Grand Ciel présente Be Jazz. Soyez Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Cette année, donc, nous partons pour une flânerie musicale à travers les courants et les évolutions du jazz. Vous retrouverez, chers auditeurs, Patrick Durand, un médecin qui pratique le jazz, et Gilles Secase, un journaliste passionné de guitare. Ils jouent tous deux dans des formations de jazz, on peut d'ailleurs les retrouver à Réveillon entre autres. Nous poursuivons cette flânerie à travers aujourd'hui les années 60 en évoquant free jazz, bossa nova et jazz fusion. Alors Gilles Secase, pouvez-vous nous dire justement comment à la fin des années 50, les structures harmoniques, l'improvisation sont portées à leurs limites par le grand John Coltrane?
Effectivement, à la fin des années 50, on va passer d'un jazz assez calme, assez tranquille, assez harmonique, à une espèce de révolution qu'on appellera le free jazz, effectivement porté par John Coltrane et également un autre saxophoniste du nom de Ornette Coleman, qui vont bouleverser totalement la structure musicale et les techniques instrumentales. La grille harmonique, le rythme régulier, même le thème sont supprimés tout bonnement au profit d'improvisation collective, la prédominance de l'énergie, l'utilisation de techniques non conventionnelles, le suraigu, le growl, le creeps, le slaps, et puis on fait beaucoup de bruit, et puis c'est comme ça que naît le free jazz. C'est une espèce de contestation, on conteste tout ce qui a été fait auparavant, on critique le jazz de papa, et puis le public ne suit pas, en fait. On s'apercevra au fil des années 60 que le public ne suivra pas.
Alors, moi je vous interromps parce que moi non plus je ne suis pas. Il y a beaucoup de mots qu'il vous faudrait nous expliquer, parce que growl, cri, slaps,
ce ne sont que des bruissements, pas des onomatopées, des utilisations un petit peu indirectes de l'instrument. On va frapper sur les clisses de la contrebasse, on va taper par terre avec ses baguettes, on va souffler en suraigu dans le saxophone, et ça donne des choses comme quelque chose comme ça.
Moi, j'aimerais ajouter un petit mot, peut-être pour nos auditeurs qui aiment bien des explications complètes et détaillées. Free jazz, ça veut dire un jazz qui est libre. Pourquoi est-il libre ? Le jazz, pour des musiciens de jazz, c'est le fait de jouer à plusieurs et de respecter certaines règles qui sont le tempo, et c'est-à-dire tout le monde joue au même rythme, respecter l'harmonie, c'est-à-dire le morceau étant écrit, il a certains accords qui sont autorisés, et donc tout le monde doit jouer les mêmes, et ensuite tout le monde est dans cette structure mélodique. Et le free, donc, c'est la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, c'est-à-dire de sortir de la structure. C'est bien ce qui a été dit par Gilles tout à l'heure, avec cette notion de faire absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire, on a un instrument, mais on n'est pas obligé d'en jouer. On peut y taper dessus sur l'instrument. Alors effectivement, on est dans une musique qui n'est plus une musique, et on comprend très bien que l'auditeur, qui est par ailleurs habitué à écouter à cette époque-là, qui écoutent des musiques un petit peu romantiques. On n'est pas dans le plein rock, si, il y a du rock, mais enfin, on comprend que l'auditeur soit complètement à côté, désarçonné. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas durer. Néanmoins, il y a quand même une grosse filière avec des musiciens qui ont été importants et qui ont eux-mêmes influencé cette musique. C'est-à-dire, le jazz ne pourra pas ressortir facilement, ressortir sans tâche de ce passage par le free. Il y a quelque chose qui va rester. Et ce qui va rester, c'est essentiellement l'harmonie. Parce qu'on va dire que ce qui perdure toujours, c'est le rythme et le tempo. Pourquoi ? On va revenir aux petites sciences cognitives. N'oublions pas que nous avons un cœur qui bat régulièrement et que le cerveau, donc, il est irrigué par pulsion et que si on respecte la même pulsion, si on est en harmonie de la pulsion qu'on écoute et de la pulsion de son organisme, on est dans un contentement, puisque c'est ça l'harmonie, l'anharmonie.
Oui, c'est très intéressant d'avoir l'explication du médecin.
Je le dis comme je le ressens, et en tout cas, je veux dire que la pulsion est quand même la règle du jazz, et c'est ce qui fait plaisir le plus. Et donc, dans les musiques plus populaires comme le rock, il y a aussi de la pulsion. Mmh. Cette pulsion est régulière. Elle n'admet pas d'aller vite au début et doucement à la fin. C'est ce qui distingue d'ailleurs de la musique classique, où il y a une partition où nous avons un certain rythme qui est donné. On donne une valeur de la noire, on joue la noire à telle vitesse, mais le chef d'orchestre va lui-même donner permettre d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus doucement. Dans le jazz, ça n'existe pas. Le jazz est rigoureux, finalement, pour une musique, on va dire,
populaire. Oui, on croirait le contraire.
On croirait le contraire. Le jazz est quelque chose de rigoureux. Voilà, nous avons entendu donc Ornette Coleman, qui est un des représentants les plus importants de cette époque. On a parlé de John Coltrane, mais à la limite, le vrai free, c'est après Coltrane. Coltrane, on était dans une musique expressive, même si dans les derniers morceaux, les Koulou C'est Mama et tous ces morceaux qui sont répétitifs, même si on avait une liberté absolue, c'était quand même des cris, mais des cris qui étaient un petit peu structurés. Coltrane était quand même assez structuré.
Alors que Ornette Coleman et le courant free jazz, lui, cherche à s'affranchir totalement du rythme, totalement de l'harmonie, totalement de ce qui structure le jazz. On est en 1960, et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1960, parallèlement, on a ce jazz traditionnel qui perdure et qui s'installe malgré tout. On aura une troisième voie qui va naître, la third stream, nous allons en reparler, mais en 1960, nous avons des gens comme Clark Terry, le bugliste, trompettiste Clark Terry, qui nous sort un jazz beaucoup plus tranquille, beaucoup plus traditionnel. On va en écouter un extrait. C'est une composition de Duke Jordan, No Problem. Thank you.
Nous sommes en 1960, le deuxième morceau que nous avons entendu, Nos Problèmes, un morceau qui est assez connu, qui a eu son public, et nous avons entendu précédemment Ornette Coleman. Donc on voit bien qu'il y a une façon de jouer, une grosse différence entre ce free jazz et dans le même temps un jazz qui existe toujours, qu'on peut appeler troisième voie. Alors, quelle est la cause de cette contiguïté, du fait que nous avons deux jazz qui existent en même temps, c'est-à-dire un premier jazz qui a évolué de façon progressive en passant par Coltrane, qui nous arrive maintenant à Ornette Coleman au free jazz, et puis une persistance d'un jazz un petit peu plus connu, qui va être plus tard un petit peu, nous allons l'écouter, illustré par Bill Evans. On peut peut-être dire que c'est l'influence des médias, l'influence des tournées, le fait que ce jazz un petit peu plus traditionnel est plus accessible et se vend plus facilement grâce aux nouveaux médias. Je crois que nous en avions parlé dans une émission précédente, Gilles, le problème de l'arrivée à l'époque du micro-sillon et puis ensuite de la bande. Je crois que Gilles, tu pourrais en dire quelque chose. Je crois que le micro-sillon arrive, rappelle-moi, dans les années...
1950.
Ensuite, il y a le 45 tours, mm-hmm. puis il y a le 33 tours, mm-hmm. qui lui contient beaucoup plus d'éléments. Et nous allons passer ensuite à la bande magnétique, espèce d'enregistrement pirate, puisque
la cassette,
cassette, la grosse cassette, avant de passer à la petite cassette. Alors peut-être que voilà une façon aussi de faire persister dans le public, dans la grande foule, un jazz un petit peu plus traditionnel, plus accessible, puisqu'on peut l'écouter chez soi, soi-même, sans aller au concert.
Absolument, mais il n'en reste pas moins qu'on est, à une époque où les choses bougent très vite. On est en pleine révolution sociale et révolution sociétale. Les mœurs évoluent et de ces deux pendants du jazz, c'est-à-dire un jazz qui veut s'affranchir de tout, de toutes les règles, le free jazz et puis le jazz plus traditionnel, il va y avoir effectivement, comme tu le disais Patrick, cette troisième voie qui va mélanger à la fois les règles traditionnelles du jazz et puis cette volonté de l'improvisation individuelle. Chaque musicien va interpréter sa musique à l'intérieur d'une même musique. On va appeler ça l'interplay, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inter-improvisation. C'est amusant parce que dans le morceau d'Ornette Coleman que nous avons écouté, il y a Scott LaFaro, le contrebassiste Scott LaFaro, qu'on va retrouver... avec Bill Evans.
Avec Bill Evans.
Et nous allons écouter Bill Evans tout de suite dans un morceau que Patrick apprécie particulièrement.
Qu'il joue,
absolument, et qui s'appelle
Elsa. Voilà donc Bill Evans, un pianiste que j'adore dans ses structures harmoniques. Pour moi, un leader de cette nouvelle troisième voie, comme nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être une petite imprégnation du free dans l'harmonie représentée dans ses accords, où on trouve des accords qui sont quand même très structurés, un petit peu moins classiques, par exemple, qu'un Oscar Peterson. Mais par contre, d'une grande beauté. Enfin, pour ma part, c'est une grande beauté, peut-être parce que je suis pianiste et que Bill Evans aussi est pianiste. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'aime ça. Mais en tout cas, je suis certainement pas le seul, Gilles.
Ah oui, tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout de ce morceau, c'est encore une fois cet aspect d'improvisation à trois. On entend beaucoup Scott Tafaro à la contrebasse. On disait même que ça gênait terriblement Bill Evans.
Il aimait pas ça. Il aimait pas trop.
Il n'empêche que les plus belles, les plus beaux enregistrements de Bill Evans se sont faits avec Scott Tafaro à la contrebasse et avec Paul Mossian à la batterie. On va découvrir en 1962. Le trompettiste Freddie Hubbard, qui n'est pas tout neuf dans le métier, mais qui va signer là, avec The Artistry of Freddie Hubbard, son cinquième album. On va écouter un morceau qui s'appelle Bob's Place. On va retrouver Curtis Fowler au trombone, John Gilmour au saxophone ténor, Davis à la basse, Louis Hayes à la batterie et Tommy Flanagan au piano. We'll be right back.
Voilà un jazz que nous aimons bien, qui est un petit peu dans la continuité des Messengers, qui a peut-être été un petit peu influencé pour chaque musicien à titre personnel par le free, mais on est bien dans du jazz traditionnel, n'est-ce pas Gilles ?
Ah oui, oui, parfaitement. On est là dans un jazz que, effectivement, Art Blakey et Jazz Messengers auraient... exploité sous leur propre nom. Ça, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, Freddie Hubbard a fait partie des Messengers. Et puis, Tommy Flanagan est un vieux de ce jazz West Coast dont nous avons beaucoup parlé. En 1963...
Là, on était en 1962.
On était en 1962. Et nous arrivons en 1963 avec un musicien, un guitariste de jazz qui commence à faire ses, à se faire connaître, il fait parler de lui, c'est Kenny Burrell. Et Kenny Burrell est un fan du jazz qui associe le blues. Donc on est plus dans le cool jazz, on est plutôt dans le hard bop. Mais en fait, son album qui le fera connaître, et qui est un album qui s'est extrêmement bien vendu, qui est l'album Midnight Blue, et constitué essentiellement par des compositions de Kenny Burrell, qui ne sont que des blues. On trouve avec Kenny Burrell le saxophoniste ténor Stanley Turrentine, à la basse c'est Major Lee, et puis Ray Barretto au conga, Bill English... à la batterie, Midnight Blue.
Poursuivrons notre flânerie le mois prochain avec la fin des années 60. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Patrick Durand. Merci Gilles Secasse.
Merci Christiane.
Merci Christiane.